Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Notre étude d'aujourd'hui, le 7e dans notre série sur l'Apocalypse, parlera d'un trône, d'un livre et de l'agneau. L'Église, à l'époque où l'apôtre Jean écrivit l'Apocalypse, était, comme nous l'avons vu, confronté à un ennemi très puissant. Qui avait pu, en effet, résister contre la force de l'Empire romain, le plus grand que le monde ait jamais vu? Aucun roi, aucune nation n'avait pu se défendre avec succès. Et cette même puissance se levait maintenant dans le but de détruire l'Église de Dieu. Du point de vue du monde, elle n'était qu'une petite secte religieuse. C'était un peuple éparpillé à travers l'Empire qui ne formait nulle part une majorité de la population et qui était sans armes pour se défendre. Dans les chapitres 6 au 20, l'Apocalypse va présenter sous des images effrayantes la lutte entre l'Empire païen et le peuple de Dieu. Les chrétiens subiraient de grandes souffrances et beaucoup d'entre eux mouraient à cause de leur foi. Ils semblaient avoir de quoi à craindre. Dans les chapitres 4 et 5 du livre, le Seigneur fait pour les chrétiens ce que le prophète Élisée avait demandé à Dieu de faire pour son serviteur. Le roi de Syrie avait envoyé son armée pour se saisir du prophète. Les Syriens ont appris qu'il était dans la ville de Dothan. Ils sont arrivés de nuit et ont enveloppé la ville. Nous voyons la suite de l'histoire en 2 Rois 6, versets 15 à 17, qui dit: le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit: « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit: « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. De même, les réalités décrites dans ces chapitres de l'Apocalypse, invisibles aux yeux des hommes, pouvaient fortifier les chrétiens et les rassurer que cette guerre ne serait pas en vain. En fin de compte, l'Église n'avait rien à craindre, sauf l'infidélité. Ayant fait au chapitre 2 et 3 le bilan spirituel des assemblées d'Asie, c'est au chapitre 4 que commencent les visions qui vont faire voir ce qui arrivera dans la suite. Chapitre 4, verset 1. La première de ces visions fait passer Jean par une porte dans le ciel et le permet de se trouver devant le trône de Dieu. La vision du ciel que le Seigneur nous présente ici est bâtie sur 3 images: le trône de Dieu, un livre et un agneau. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler, qui résonnait comme une trompette, me dit: « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Jean n'attribue pas à celui qui est sur le trône une forme humaine, mais se contente d'évoquer l'éclat de sa présence en la comparant à des pierres précieuses. Au verset 8 et 9, il nous est dit que celui qui est sur le trône est, bien sûr, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Autour du trône, il y a un arc-en-ciel, un rappel de la fidélité de Dieu aux alliances qu'il traite avec son peuple, même quand il punit les méchants. Jean poursuit sa description ainsi: autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous venez d'entendre que devant le trône de Dieu est une mer de cristal. De même, devant le temple de l'Ancien Testament, il y avait une vaste cuve d'airain. Avant d'entrer dans la présence du Dieu très saint dans son temple, les prêtres devaient forcément se purifier en se lavant avec l'eau dans cette cuve. Rien d'impur ne peut entrer dans la présence de Dieu. Nous constatons aussi la présence de quatre êtres vivants. Selon Ézéchiel, chapitre 1, versets 4 à 28, ce sont des chérubins. Après le péché d'Adam et Ève, c'était un chérubin qui gardait le chemin de l'arbre de vie, en Genèse 3, verset 24. Il y avait également des chérubins tissés sur le voile qui était devant le lieu très saint dans le temple. Les chérubins ne sont pas de petits enfants ailés tels que les artistes les représentent dans certains ouvrages. Ce sont plutôt des êtres puissants qui voient tout et qui font respecter la distance entre Dieu et les hommes pécheurs. Ils proclament continuellement la sainteté de Dieu. Dans la vision de Jean, toute la cour céleste glorifie et adore Dieu et le reconnaît comme créateur et roi de l'univers, celui qui vit depuis toujours et pour toujours. Mais la vision continue au chapitre 5. Dans la main de Dieu, Jean voit un livre, en fait un rouleau. Il est fermé au moyen de sept sceaux. Son contenu nous sera révélé dans les chapitres à suivre. Il montre les choses qui doivent arriver, la persécution des saints, les jugements de Dieu contre ses ennemis et la victoire totale de son Église. Mais il faut trouver quelqu'un qui soit digne d'ouvrir le livre. Ce ne sera pas simplement pour le lire. Celui qui ouvre les sceaux va diriger, présider aux événements décrits. Il n'y a pourtant aucun ange, personne dans le ciel, aucun homme, personne sur la terre, aucun serviteur de Dieu d'autrefois, personne sous la terre, c'est-à-dire dans le séjour des morts, qui soit digne d'ouvrir le livre ou de le regarder. L'un des anciens lui dit alors que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est-à-dire le Messie, pourra ouvrir le livre. Lorsque Jean regarde, il voit non pas un lion, mais un agneau. Il dit, « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. » Il avait sept cornes, symbole de puissance divine, et sept yeux pour tout voir par son esprit. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était sur le trône. Les chérubins et les anciens éclatent alors en louange en l'honneur de l'agneau. Ils insistent sur ce que Jésus a fait sur la croix. Il s'est donné lui-même, il a racheté ou libéré des hommes, et il a établi son royaume. Ensuite Jean dit, « Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Pourquoi Jean reçut-il cette vision? Dieu s'en est servi pour rappeler aux chrétiens trois choses très importantes qu'ils pourraient oublier dans leur situation difficile. D'abord, Dieu est sur son trône. Il règne. Malgré les apparences, il est suprême. Oui, pour le moment, son peuple souffrait. Les persécuteurs n'étaient pas encore arrêtés. Et tandis que certains frères reniaient le Seigneur, d'autres étaient mis à mort. Mais Dieu reste au-dessus de tout homme. Le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. 1 Timothée 6, versets 15 et 16. Les rois humains se lèvent et se vantent pendant leur moment de gloire passagère. Puis ils y sont renversés comme ceux qui les précédèrent. Mais Dieu est éternellement sur le trône, et personne ne peut l'enlever. Il est tout-puissant. Deuxièmement, Dieu seul est digne d'adoration. Qu'est-ce qu'un homme, aussi élevé soit-il, à côté du Créateur de toutes choses, et pour qui toutes choses existent? Après avoir contemplé le vrai Dieu, qui pourrait adorer un homme mortel, destiné à retourner à la poussière? Et troisièmement, cette vision communique la vérité que c'est notre Sauveur qui dirige tout. Celui qui va présider sur notre destin est celui qui s'est offert pour son peuple, celui qui nous aime comme aucun autre. Certes, il ne permettrait pas que le peuple pour qui il s'est livré soit détruit. Puisque l'avenir est entre ses mains, les chrétiens n'ont pas à craindre ce qui va venir. Quelles que soient les souffrances, c'est Jésus qui fixe les limites et qui pourra accomplir sa sainte volonté. Ces mêmes leçons sont valables pour nous aujourd'hui. Parfois, il semble que l'injustice dans le monde prouve que Dieu ne règne pas. Mais il ne faut pas nous fier aux apparences, ni essayer de juger Dieu pour sa façon d'exercer son règne. Il use de patience envers les méchants, mais il punit aussi, selon son propre programme. Même aujourd'hui, des hommes sont tentés d'adorer la création plutôt que le Créateur, mais non après avoir contemplé le vrai Dieu sur son trône. Nous aussi, nous pouvons avoir peur de l'avenir, mais nous devons savoir que ce n'est ni le hasard, ni le destin aveugle, ni les autorités humaines qui déterminent le futur. C'est Jésus, celui qui nous aime, qui fait que toute chose concourt à notre bien et qui dit « Je ne t'abandonnerai point. »